Oui, que le nom du Seigneur soit béni. Eh bien, voyez-vous, moi je crois que le jour de la Pentecôte, ils étaient beaucoup plus que 120. Beaucoup plus. Ils étaient plusieurs centaines, à mon avis. Et ce n'est pas important. Je crois que Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. Il veut nous remplir de sa vie. Et je voudrais qu'on lise une magnifique prophétie qui a été rappelée par notre frère lors de ces cantiques, dans Ésaïe chapitre 56, nous allons lire la fin du verset 7. C'est une prophétie. Dieu dit, « Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Dieu qui est souverain, qui est maître, qui est créateur et roi, a parfaitement le droit de désirer le nom qu'il veut pour sa propre maison. Et ce nom est étonnant, c'est lui qui l'a choisi. Il dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Et il rajoute un détail qui n'est pas un détail, une précision très importante, « Ceci pour tout ». Les peuples, ou d'autres versions disent pour toutes les nations. Bien que l'impiété dans le monde soit à son comble, Dieu vise toutes les nations, tous les peuples. L'impiété dans le monde est telle aujourd'hui que l'on se moque de celui qui prie, de celui qui annonce sa piété, de celui qui affiche Jésus-Christ. Par contre, on admire et l'on cautionne ceux qui sont sans piété, ceux qui sont sans Dieu, ceux qui vont vers les horoscopes, vers le spiritisme, ceux qui vont vers les diseurs de bonne aventure, ceux qui recherchent des sensations dans des choses interdites par la parole de Dieu, ceux-là, on les encense, mais l'on se moque de ceux qui ont une véritable piété. Du temps du prophète Élie, ou du temps du roi Baal, du roi Achab, les prophètes de Dieu se cachaient et les prophètes de Baal étaient dans la prospérité et travaillaient à face découverte. Et aujourd'hui, je crains fort qu'il en soit un petit peu de la même manière. Dieu dit que sa maison sera appelée une maison de prière. Les quatre points que je voudrais vous proposer sont les suivants. De quelle maison s'agit-il? De quelle prière s'agit-il? Satan a toujours lutté pour empêcher cette prophétie de se réaliser. L'Esprit de Dieu a toujours poussé pour que cette prophétie se réalise. Et je conclurai par le même passage que l'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu, mais qui est suivi d'une précision qui nous intéressera. Bien sûr, lorsque Dieu parle du temps d'Ésaïe, « Ma maison sera appelée une maison de prière », il le pensait à ce moment-là. Et du temps où Jésus-Christ est venu sur la terre, il a rappelé le verset d'Ésaïe. Et lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple, vous vous souvenez de cela, Jésus a répété cette phrase qui était d'abord attribuée à Ésaïe, « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Dieu pensait toujours la même chose. Et je peux vous dire ce soir que Dieu pense toujours la même chose. Il n'a pas changé d'avis. Toujours, il pense que sa maison sera appelée et doit être appelée une maison de prière. Vous me direz, mais il s'agit du temple de Salomon. Oui, bien sûr. La maison de Dieu à cette époque-là, la maison matérielle, le temple dans laquelle les gens venaient prier, c'était le temple de Salomon, fils de David, temple qui avait été construit sur l'ordre de Dieu et dont Dieu avait dit, « Là sera mes yeux et mon cœur ». Et peut-être vous souvenez de la dédicace de Salomon lorsqu'il a prié et qu'il a voulu inaugurer ce temple. Il a supplié Dieu en disant, eh bien, dorénavant, quiconque viendra dans ce lieu, dans quel état qu'il soit, pour quelle catastrophe qu'il ait connue et quelle qu'en soit la cause, s'il te plaît, Seigneur, exauce-le. Et Dieu avait répondu et avait dit, je suis d'accord. Si un pécheur vient, si un malheureux vient, si un homme s'approche parce qu'il a péché et qu'il revienne même de très loin, je suis d'accord, là seront mes yeux et mon cœur, Dieu pensait bien qu'il exorcerait les gens dans ce lieu-là. Mais vous pensez bien, mes frères et sœurs, vous n'avez pas attendu que j'en vienne à ce point du message pour penser la même chose que moi. Le mot « maison de Dieu » va beaucoup plus loin que le temple de Salomon, beaucoup plus loin. Et le mot « maison de Dieu » veut dire quelque chose de plus grand, de plus important que le temple de Salomon. Lorsque Noé a construit son arche, et quand tout a été prêt, que tout a été terminé, vous savez que Noé est rentré dans l'arche, et la Bible nous dit que Dieu lui a dit, « Eh bien maintenant, Noé, toi et ta maison, entre dans l'arche. Toi et ta maison. » Voyez que le mot « maison » a un rapport avec le mot « descendance », avec le mot « famille ». Regardez, s'il vous plaît, trois versets que je vous propose, je pourrais les citer, mais j'aimerais autant que nous les lisions ensemble. Dans 1 Timothée chapitre 3, nous lisons le verset 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Voilà un verset qui nous ouvre un horizon différent. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Hébreux chapitre 3, verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. La maison de Dieu, c'est nous. Nous, des gens qui retiennent l'espérance donnée par l'Évangile. Des gens qui croient en l'Évangile. C'est la maison de Dieu. Un verset plus épatant encore, dans Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Dans cette maison, il y a une pierre particulière qui soutient tout l'édifice, et cette pierre s'appelle Jésus-Christ. Et l'apôtre aux Éphésiens rappelle bien que vous êtes concitoyens des saints, vous êtes des gens de la maison de Dieu. Donc, notre premier pas que nous faisons ce soir concernant ce verset, « Ma maison sera appelée une maison de prière », notre premier pas est le suivant. Dieu aurait pu dire « Ma famille sera appelée une famille de prière ». Ou bien la famille de Dieu sera appelée une famille de prière. Les enfants de Dieu seront appelés des enfants de prière. Voilà ce que Dieu entendait lorsqu'il a inspiré Ésaïe dans ce chapitre 56. De quelle prière s'agit-il? Le mot prière est un mot très très vaste. Il n'est plus le mot prière. Je ne parle pas du verbe prier qui est X fois dans la Bible. Le mot prière est plus de 120 fois dans la Bible. Donc c'est un peu important. Le mot prière recouvre beaucoup de choses. On prie pour soi, on prie pour les autres, on prie quand on demande quelque chose à Dieu, quand on présente quelque chose à Dieu, quand on glorifie Dieu, quand on le remercie. La prière, c'est l'appel au secours d'un malheureux qui appelle au secours son Dieu. La prière, c'est l'invocation d'un homme qui est dans la nécessité et qui a lu que quiconque invoquerait Dieu recevrait, donc il invoque Dieu, c'est une prière. La prière, c'est la repentance du pécheur qui est brisé par les blessures de Jésus-Christ. Il est angoissé par la mort de Jésus-Christ. Il se repent. C'est une prière. La prière, c'est une louange ou un remerciement d'une personne qui a été bénie par Dieu et qui trouve que Dieu a été bon envers elle, qui le témoigne à Dieu et qui lui dit « merci ». C'est une prière. La prière, c'est une adoration silencieuse. Lorsque l'on se tait, mais que l'on réfléchit sur l'immensité de Dieu et que l'on se dit « Seigneur, tu es là » et que l'on pense que le grand Dieu du ciel et de la terre est là dans la pièce où nous sommes, c'est une prière, même une prière silencieuse. L'admiration de Jésus-Christ, la contemplation de l'œuvre de Christ, c'est une prière. L'intercession ou la supplication en faveur d'un perdu, c'est une prière. Lorsque nous supplions Dieu pour qu'il sauve quelqu'un, c'est une prière. Lorsque nous demandons à Dieu de guérir une personne ou de nous guérir nous-mêmes, c'est une prière. Donc, notre deuxième pas que je voudrais que nous fassions ensemble, peut-être celui-ci. Dieu désire entendre dans sa famille des appels au secours, des repentances, des invocations, des supplications, des remerciements, des louanges, des intercessions, de l'adoration. Voilà ce que Dieu veut entendre dans sa famille. Le troisième point sur lequel je vous proposerai une lecture un peu plus longue, et celui-ci, Satan a toujours travaillé pour empêcher la réalisation de cette prophétie. La chose la plus difficile à réaliser dans une église, c'est la prière. La chose la plus difficile à réaliser dans une vie de piété, c'est la prière. Une personne peut prendre la Bible et lire des chapitres de la Bible et s'intéresser à l'histoire, à la prophétie, s'intéresser à la poésie biblique, s'intéresser à la Bible. Mais quand il s'agit de prier, il y a un mur qui se dresse. C'est le plus difficile de réaliser parce que Satan a toujours travaillé pour empêcher les hommes de prier. Tout au long du récit biblique, depuis le début jusqu'à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse, on voit que les hommes ont envahi de leur iniquité la maison de Dieu. Ils ont toujours été là où Dieu voulait qu'il y ait la sainteté. Le péché est entré pour empêcher la prophétie d'Ésaïe de se réaliser. Il y a du reste une prophétie dans la Bible qui annonce même que l'un des signes du retour de Jésus-Christ, écoutez bien, l'un des signes annonciateurs du retour imminent de Jésus-Christ, c'est la prise de possession de la maison de Dieu par le péché. La disparition de la prière. Vous savez ce verset où il est dit que l'homme d'iniquité s'assiera, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, il rentrera dans le temple de Dieu. C'est le plan de Satan. Satan, lorsqu'il était un ange au service de Dieu, a convoité le trône de Dieu et il s'est dit, c'est écrit, il s'est dit, je voudrais m'asseoir à la place de Dieu, je voudrais triompher, être plus haut que Dieu, et il n'a pas changé d'avis. L'on voit des récits tragiques dans la Bible, alors que Dieu faisait tout son effort pour conduire son peuple, pour bénir cette maison qui avait été construite par Salomon, cette maison où il devait y avoir la paix, où il devait y avoir des prières, où les hommes devaient retrouver la paix, se réconcilier avec Dieu. On voit des récits tragiques où c'est exactement le contraire qui s'est passé dans la même maison. Par exemple, allons dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 23, et lisons à partir du verset 4. Le roi ordonna, alors le roi Josias, ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal et pour Astarté. Vous savez qui étaient Baal et Astarté. Astarté, une déesse impudique, et Baal, un dieu qui cherchait à prendre un faux dieu Aujourd'hui, c'est le dieu de l'argent, mais Baal, c'était le dieu qui était vénéré par les hommes qui se détournaient de Dieu. Et chose curieuse, ils avaient réussi à implanter leur autel dans le temple de Dieu. Alors, le roi Josias donne l'ordre de sortir tout cela et de le brûler hors de Jérusalem dans les champs du Cédron. Et il en fit porter la poussière à Bethel. Verset 5. Il chassa les prêtres des idoles établies par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Verset 6. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel. Il faut le faire, ça. Ça vous étonne? Je le relis. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si je vais arriver à vous dire ce que je ressens, mais le but de mon message, c'est de vous dire que lorsqu'il n'y a pas de prière dans une vie, il y a un très grand déclin. Tôt ou tard. Et lorsqu'il n'y a pas une prière dans l'Église, lorsque la prophétie de Dieu que j'ai lue au départ, lorsque la prophétie de Dieu ne s'accomplit pas et que la maison de Dieu n'est pas une maison de prière, il peut y avoir un déclin extraordinaire. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le temple? Des récits comme celui-là, nous pourrions en lire beaucoup. Je vais juste vous en proposer un second. Dans Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8. C'est un peu plus long comme lecture. Ça se passe dans, il faudrait lire à partir du verset 1er, mais on prend au verset 5. Ça se passe dans le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du nord. Je levai les yeux du côté du nord et voici cette idole de la jalousie était au nord de la porte de l'autel à l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai, je regardai, voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Bien sûr, dans la maison de Dieu, Dieu entendait être seul honoré et avoir droit, lui seul, au parfum qui est représenté par la prière de ses enfants. Mais là, les 70 anciens encensaient des idoles. Mais dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du nord. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, alors Tammuz, divinité des Phéniciens et des Syriens. Et voici, il y avait là des femmes qui pleuraient Tammuz. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel, le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil, etc. Dans le temple de Dieu. Pourtant, Dieu a dit « Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples ». Mais on se rend compte que l'ennemi a travaillé pour que la maison soit une maison de prière pour Satan, pour les idoles, que les prières ne soient point exaucées, que Dieu puisse se courroucer contre son peuple. Et ce temple a été détruit parce que Dieu n'a pas supporté ce qui se passait. Et de la même manière, Satan voudrait détruire le temple de Dieu, qui est l'Église de Dieu. Il veut détruire le temple de Dieu en empêchant l'Église de prier. Quelqu'un a dit un jour que pour connaître la valeur spirituelle d'une église, il faut aller non pas à un culte, mais à une réunion de prière. C'est là, arriver dans une réunion de prière. S'ils sont 150 au culte et qu'ils sont soit 15 à la réunion de prière, frères et sœurs, je ne commente pas. Mais comment peut-on chanter « Jésus est au milieu de nous » là où il n'y a pas de prière ? Comment peut-on chanter ce si beau cantique que Jésus est au milieu de nous lorsqu'il n'y a aucune prière qui monte vers le Seigneur ? Mon quatrième point, c'est l'Esprit de Dieu a toujours, lui, poussé son peuple à prier. Car si Satan veut retenir et freiner, le Saint-Esprit nous pousse à la prière. Et il vous est souvent arrivé, sans doute, de vous sentir attiré par une force que vous savez être la force du Saint-Esprit, vous sentir attiré vers la prière. Le prophète, dans cette belle prophétie que j'ai énoncée au départ, a précisé pour tous les peuples. Il n'est pas dit une prière pour l'élite, il n'est pas dit une prière pour les meilleurs, une prière pour les anciens, une prière pour les pasteurs, une prière pour les prophètes, une maison de prière pour mon élite. Il est dit une maison de prière pour toutes les nations. Dieu peut prendre n'importe quel individu qu'il regarde en ce moment sur la terre et il voudrait que cet individu soit un prieur. Il voudrait que cet individu se mette à prier. Quand il est dit que ma maison sera appelée une maison de prière, on peut comprendre de deux façons différentes. Je vous laisse le choix de ce qui vous intéresse le mieux. On peut comprendre que tout individu d'un peuple quelconque fait partie de la maison de Dieu. Tout individu d'un peuple quelconque peut faire partie de la maison de Dieu. Une maison de prière pour tous les peuples. Ça ne se renferme pas au peuple juif ou aux Français, c'est à toutes les nations. Mais on peut comprendre aussi que tout enfant de Dieu, tout fils de Dieu, tout membre de la famille de Dieu a le droit d'intercéder pour n'importe quel individu de n'importe quel peuple. C'est comme si je disais, ma maison sera appelée une maison de prière en faveur de tous les peuples, en faveur de chaque individu. Je crois que les deux explications sont toutes les deux bonnes, de toute façon. La prière a un double effet. La prière a un double effet. Elle permet à une âme de rencontrer Jésus-Christ. Vous savez, n'oubliez pas cela, frères et sœurs. On ne va pas prier pour attendre que ce soit 10 heures. La prière a pour premier effet de permettre à une âme de rencontrer Jésus-Christ. Et la prière a un deuxième effet, elle permet à Jésus-Christ de régner dans sa maison. N'oublions pas cela. Inversement, la non-prière a un double effet. Elle prive une âme de la vie éternelle, puisqu'on ne prie pas pour elle. Satan en profite pour la traîner vers l'enfer. Elle prive une âme de la vie éternelle, mais le deuxième effet est beaucoup plus grave, si je puis dire. Elle installe l'apostasie dans l'Église. Lorsqu'il n'y a pas de prière, l'apostasie s'installe dans l'Église. Alors vous dites, qu'est-ce que c'est que ce mot-là ? Apostasie, ça veut dire éloignement, déchéance, rébellion. On va dire rébellion contre Dieu. Déchéance, écart, éloignement de Dieu. Lorsqu'une personne s'éloigne de Dieu, elle rentre en apostasie. Et la prière a pour effet d'installer l'apostasie dans l'Église. La non-prière, pardon. La non-prière a pour effet d'installer l'apostasie dans l'Église, quand on ne prie pas. La prière a pour effet de permettre à Jésus-Christ de régner. La prière, c'est l'unique moyen que nous ayons et que Dieu ait trouvé pour nous. L'unique moyen pour empêcher les impies de sombrer et pour nous empêcher de sombrer avec eux. N'est-il pas écrit « Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ». Comment vous comprenez ce verset-là ? Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ça ne veut pas dire afin que vous n'ayez pas de tentation, parce que des tentations, nous en aurons toujours. Mais ça veut dire afin que vous triomphez de la tentation et qu'elle ne soit pas une occasion de vous faire tomber, de chute. Donc la prière, c'est le seul moyen que nous ayons pour ne pas nous mêler avec les impies, pour sombrer avec eux. La prière, c'est le seul moyen que nous ayons pour ressentir la présence de Jésus-Christ au milieu de nous. Je puis vous certifier, mes frères et sœurs, que le jour où nous sentirons la présence de Dieu dans la salle, nous aurons envie de prier. Et peut-être que c'est parce que nous aurons eu envie de prier que nous ressentirons la présence de Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ est ressentie lorsqu'il y a prière. La prière, c'est le seul moyen que Dieu ait à nous proposer pour résister dans les mauvais jours, pour résister. Vous ne le croyez pas ? Lisons dans Luc chapitre 21. Le verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, ce n'est pas ça que veut dire Jésus-Christ. Veillez donc et priez en tout temps, ben c'est dans les temps de désert, dans les temps d'inondation, dans les temps de souffrance, dans les temps de joie, dans les temps de réussite, dans les temps d'échec, en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et que vous ayez la force de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc la prière nous permet de résister dans les jours mauvais qui seront proposés à l'humanité. Nous ne résisterons pas si nous ne prions pas, et non pas à prier à ce moment-là, mais si nous ne sommes pas des gens qui se tiennent dans la prière. Pour conclure, je voudrais que vous relisiez avec moi, pas que vous relisiez, que nous lisions, parce que je ne l'ai pas lu encore, dans Matthieu, chapitre 26. Je vous demande pardon, c'est chapitre 21, verset 13. Chapitre 21. Jésus entra dans le temple de Dieu, je suis au verset 12, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il y a un passage dans la Bible où il est dit qu'il a pris un fouet, mais le fouet, ce n'était pas pour taper sur les gens, je vous le dis tout de suite. C'était pour taper sur le bétail qui était par là. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. » Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Et le verset 14, ce sera ma conclusion, car il est très beau. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Peut-être que ce soir, il y a quelqu'un qui se dit, eh bien moi, la prière, je suis complètement boiteux à ce sujet-là. Un jour je prie, un jour je ne prie pas. Je suis complètement aveugle parce que je ne vois pas du tout à quoi sert la prière. Je ne vois pas du tout pourquoi et pour qui devrais-je prier. Sur ce plan-là, je m'avoue aveugle et boiteux. Vous savez, il y en a des aveugles et des boiteux dans les églises au sujet de la prière. Et vous avez vu ce qui s'est passé ? dans le temple. On peut être dans le temple et être un aveugle dans la prière, ou un boiteux dans la prière. Est-ce qu'il ne boitait pas du temps d'Akaz, du temps du prophète Élie, le peuple qui tantôt priait Baal, tantôt priait l'Éternel? Que vous en semble-t-il? Ils ne boitaient pas. Ils boitaient tellement que Élie leur dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Ils boitaient. Eh bien, dans le temple, il y avait des aveugles et des boiteux. Ils se sont approchés de Jésus. Et Jésus, il veut les guérir. Ce soir, Jésus veut nous guérir. Il veut nous guérir pour que nous devenions des hommes de prière. Il veut guérir son Église pour que l'Église ne boite pas au sujet de la prière. Il veut nous guérir pour que nous puissions affronter les jours qui viennent en étant des gens qui prient. Vous ai-je bien fait comprendre, frères et sœurs, que la bénédiction viendra si l'Église prie, si nous prions. Et l'Église, c'est quoi? Ben, c'est pas armons-nous et prions. C'est armons-nous et prions. Il y en a qui disent armons-nous et partez. Mais là, c'est armons-nous et prions. Ce n'est pas les autres. L'Église, c'est la maison de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. C'est la famille de Dieu. Ce sont ceux et celles qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il veut, il le dit. C'est lui-même qui a donné ce nom-là. Je l'appellerai une maison de prière. Que Dieu fasse que nous comprenions cela et que l'Église de Sainte-Agne prie. Prie pour que Dieu sauve. Nous ne perdons pas notre temps. Prie pour que Dieu bénisse. Nous ne perdons pas notre temps. Prie pour que Dieu nous garde debout. Nous ne perdons pas notre temps. Que l'Église prie afin que l'esprit impur de Satan soit mis à la porte et que l'apostasie ne rentre pas dans l'Église. Que l'Église ne soit pas livrée à tous les courants qui existent sur la terre et qui contribuent à séparer les hommes de Dieu, à les séparer de l'Évangile de Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse comprendre tout cela. Il veut nous guérir ce soir. Même si vous êtes à la fois aveugle et boiteux, il suffit de s'approcher de Jésus-Christ. Il vous guérira. Et je suis persuadé que si il y a une prière que le Seigneur veut exaucer tout de suite, c'est si nous faisons cette prière, Seigneur, enseigne-moi à prier. Amen. Seigneur Jésus, c'est toi-même qui a voulu par le Saint-Esprit appeler ta maison une maison de prière. Et j'espère que chacun a bien compris qu'il ne s'agissait plus du temple construit en pierre, mais qu'il s'agissait bien de la maison constituée par les enfants de Dieu. Et que nous avons tous compris que chacun dans le monde entier et sur toutes les nations peut faire partie de cette maison de Dieu. Et que dès l'instant que nous sommes dans la maison, tu attends que nous soyons des intercesseurs, tu aimes, que nous remercions, que nous adorions, que nous intercédions, tu aimes cela. Et ce soir, Seigneur, je te le demande pour moi, je te le demande pour chacun de mes frères, je te le demande pour chacune de mes sœurs, enseigne-nous à prier. Donne-nous un esprit de prière. Priez et priez pour tout ce que tu nous mettras à cœur. Priez par le Saint-Esprit, priez par passion, priez par raison, mais priez parce que tu veux que nous soyons des gens qui prient. Seigneur Jésus, montre-nous à quel point cette ville attend que les prières montent vers le ciel. Montre-nous à quel point Satan en a peur. Montre-nous à quel point l'enfer peut-être peut frémir si nous faisons monter nos prières vers le ciel de toute notre âme. Montre-nous à quel point tu attends et tu aimes que nous prions. Seigneur, nous te supplions pour tous ceux qui ne sont pas là ce soir, pour tous les croyants qui sont dans cette ville, peut-être pour tous ceux qui sont devant leur télévision en ce moment. Seigneur, donne-leur un esprit de prière afin que la prophétie puisse s'accomplir et que le Saint-Esprit puisse agir par nous et en nous. Amen.